Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Le témoin de ce vendredi, Olivier Roy, L'Orient perdu.
Nous sommes ici dans la région de Paktia, à une centaine de kilomètres au sud-est de Kaboul. Cette région est soumise à une attaque en force des divisions d'élite de l'armée rouge. Peu d'armement lourd, une logistique pratiquement inexistante, mais une foi inébranlable, c'est le premier trait à retenir des maquisards afghans. Ils traversent les villages sous les acclamations de la population et il n'est pas rare de voir des militaires parmi leurs plus fidèles supporters.
On peut être agrégé, ça n'a pas empêché Olivier Roy d'apprendre à tirer et à participer au combat de la guerre d'Afghanistan dans les années 1980. Pour beaucoup de jeunes occidentaux, elle était comme une épreuve initiatique, elle incarnait le combat antitotalitaire. On peut être agrégé, ça n'a pas empêché Olivier Roy d'enseigner la philosophie dans un lycée technique à Dreux. Et Dreux est resté son port d'attache. Vous n'allez tout de même pas devenir ethnologue, lui a dit l'inspecteur général qui l'y visitait. Il a été ethnologue, mais à sa façon, par l'expérience de terrain. Il a aussi acheté une cravate afin de tenir un rôle d'expert esguerilla et choses islamiques auprès d'officiels et d'officiers d'innombrables pays. Olivier Roy s'est parfaitement rédigé des papiers d'analyse clairs et des livres décisifs. Le dernier, c'était sur le temps de la religion sans culture, la sainte ignorance. Mais il aime encore plus raconter des histoires. Les histoires, c'est le réel. Restez philosophe, lui recommandait l'inspecteur général. Maintenant qu'il a posé le sac à l'Institut universitaire européen de Florence, il revient à la question qui pour lui demeure centrale, celle de la liberté en dépit des appartenances.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Olivier Roy, bonjour.
Bonjour.
Enfin, le tout dernier livre où vous ne vous privez pas de raconter des histoires, c'est un livre d'entretien au seuil avec Jean-Louis Schlegel, dont je vous laisse donner le titre.
Enquête de l'Orient perdu.
Alors, tout à l'heure, on en viendra à votre analyse de ce qu'on appelle par automatisme le retour du religieux, à ce livre que je citais, La Sainte Ignorance, mais on va d'abord vous entendre raconter des histoires. Et je vous en propose une, toute première, vous êtes d'un milieu protestant. C'était une époque très lointaine où les catholiques et les protestants faisaient du patronage, des clubs de sport, ils étaient tournés vers l'extérieur. Et vous, vous voilà, vous aviez quoi, 16-17 ans, dans un camp de toile tenu par un pasteur.
Oui, bah c'était le groupe de jeunes de la paroisse et le pasteur nous servait un peu d'éducateur. Et bon, on se retrouvait là parce qu'on était protestants, mais aussi parce que c'était mixte. À l'époque, c'était extrêmement rare. Et donc, on pouvait enfin être avec des filles et transformer la soirée de danse folklorique en danse un peu plus contemporaine. Jusqu'au jour où on a vu débarquer un jeune, plutôt de milieu très très ouvrier, jeune aux yeux bleus, qui arrive et qui nous lance « Christ est ressuscité ». Évidemment, on ne pouvait pas dire le contraire. Et puis, il s'arrête, il nous regarde, « Mais vous devez me répondre, Alléluia, Christ est ressuscité ». Alors, on était tous un petit peu gênés. Il voulait que le groupe se transforme en groupe de croyants, pratiquants, et qui témoignent de leur foi dans l'espace public, en remplaçant le « Bonjour, salut, ça va » par « Christ est ressuscité ». Alors, la greffe n'a pas pris. Et le pasteur, d'ailleurs, avec beaucoup de réticence et de regrets, eh bien, a choisi le troupeau égaré plutôt que la brebis qui avait trouvé la porte du paradis.
Enfin, depuis, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses changent en une génération, on allait cesser de le dire, et les évangélistes, bah, c'est maintenant le courant religieux, c'était un évangélique, ce jeune homme, qui est le plus expansionniste dans le monde. Je parlais de l'Afghanistan au tout début, et de la guerre des années 80, mais deuxième histoire, c'est l'Afghanistan bien avant. En 1969, vous partez en Afghanistan à pied.
Oui, je pars en autostop. J'avais mon petit sac à dos, un petit drapeau français, une toile de tente. Et puis, j'ai mis 6 semaines à arriver en Afghanistan, en passant par la Turquie, par l'Iran, en rencontrant évidemment des tas de gens. Et c'est là, disons, que je me suis petit à petit enfoncé dans l'Orient, parce qu'à chaque pays, on a un stade de régression, si je peux dire, supérieur. La Turquie, c'est un État le plus moderne à l'époque. L'Iran, ça a commencé à être transformé par la modernisation du Shah d'Iran. Par contre, l'Afghanistan, c'était ce que je percevais comme le Moyen-Âge, bien sûr.
Il y avait quand même des lampes à pétrole, des fusils qui dataient de 1911.
Alors, c'était les Lee-Enfield, oui, de la guerre de 14, lampes à pétrole. La seule chose choses modernes, c'était le bus, le fusil et puis le radio transistor. Mais autrement, il y avait encore des caravanes, des chameaux, les gens circulaient aussi beaucoup à cheval. Et dans les auberges, on vivait là effectivement comme au Moyen-Âge.
L'ethnologie, vous la concevez non pas comme l'application de classification, de théorie. Là, vous avez 19 ans, vous n'avez pas encore fait vraiment d'ethnologie, mais vous en faites sur le terrain. La première qualité, c'est d'écouter bavarder.
Oui, et ça j'ai appris ça en faisant l'autostop, parce que je ne savais pas trop quoi dire au chauffeur, et je me suis aperçu dans le fond que tout le monde avait des histoires à raconter, qu'il suffisait de lancer les gens sur leur vie, sur leur passé, sur leur service militaire par exemple. À l'époque ils avaient tous fait l'Algérie, les chauffeurs routiers par exemple. Et ils racontaient. Et il y a un camionneur par exemple avec qui j'ai traversé toutes les Yougoslavies, un camionneur français, pendant deux jours, alors lui qui était plutôt taciturne, il m'a raconté sa vie. Et alors j'ai continué après, alors évidemment il y avait le problème des langues, il fallait apprendre les langues locales, donc j'ai appris le persan assez laborieusement, je le reconnais. Mais du coup, ça me permettait de continuer dans les petites auberges, à poser des questions. Et les Afghans sont des grands conteurs, sont des grands bavards. Ils posent aussi beaucoup de questions.
Dreux, j'ai dit que vous avez enseigné la philosophie dans un lycée technique. Une secrétaire de section G, à l'époque c'était les sections déconsidérées, peut très bien apprendre le Descartes et le Platon.
Ah oui, et j'ai eu des élèves absolument remarquables, dont une d'ailleurs est devenue professeure de français au lycée. J'ai eu des élèves extrêmement passionnants, extrêmement intéressants. Et là, je suis très socratien de ce côté-là. Je pense qu'effectivement, on peut enseigner à partir de rien. Par la méthode justement socratique de poser des questions, de partir de choses extrêmement simples.
Les choses changent beaucoup en une génération. Vous êtes toujours domicilié, bien qu'enseignant maintenant à Florence, à Dreux. Archives, 1978, une jeune énarque du cru Drouet, Françoise Gaspard, vient de prendre la mairie, elle est socialiste.
À quelques 80 km de Paris, Dreux, dans l'Eure-et-Loire, c'est déjà la province. Une cité bien tranquille de 36 000 habitants, avec ses traditions, ses images d'Épinal. Aujourd'hui à Dreux, c'est jour de foire.
Voilà, la 799e Saint-Denis est ouverte.
Et tradition oblige, elle est inaugurée par le maire de la ville, Françoise Gaspard, socialiste, élu en 1977 avec 55% des voix.
Bonjour, je vais voir comment va le premier parti de France.
32 ans, énarque, juge au tribunal administratif de Versailles, féministe, créatrice du courant femmes dans le PS, bref, une personnalité. L'enfant du pays est devenu premier magistrat de la ville. Et elle a fait sienne la fête du pays.
C'est fou ce que les choses changent en une génération. Il y a des évangélistes partout. Et je pense qu'à Dreux, ça fait longtemps que le Parti Socialiste n'est plus le premier parti de France.
Oui, certainement, ça incarne l'histoire récente de la France. Quoi, la montée du socialisme, sa transformation au socialisme d'État, socialisme municipal, l'assèchement des réseaux associatifs, de la contre-culture de gauche qui avait dominé la France non officielle dans les années 60 et 70. Et puis, la montée du Front National, bien sûr.
Et oui, première grande manifestation de la présence du Front National, c'est Dreux, 82-83. Mais venons-en à un sujet qui n'intéressait pas beaucoup le Front National, l'Afghanistan.
Le Front National était très anti-soviétique, évidemment. Mais en même temps, il ne pouvait pas s'identifier à une guérilla essentiellement musulmane. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens de droite, voire d'extrême droite, qui allaient en Afghanistan. Mais ils avaient un petit problème de conflit de priorité, si je peux dire. De même que les officiers de l'armée française qui suivaient la question afghane, beaucoup d'entre eux avaient été jeunes lieutenants pendant la guerre d'Algérie. Et ils étaient évidemment très anti-soviétiques, puisque les soviétiques, c'était l'ennemi potentiel, bien entendu, de la France. Donc là aussi, tantôt ils s'identifiaient aux soviétiques, en se disant, mais comment ils font pour faire la contre-guérilla? Et puis tantôt ils s'identifiaient à la résistance, qui des freedom fighters, des combattants de la liberté contre le communisme.
Pour vous, c'est l'épreuve initiatique et c'est le symbole du combat anti-totalitaire, l'Afghanistan.
Oui, parce que ma génération est une génération évidemment qui a été très gauchiste, qui a été fascinée par la révolution, par Che Guevara, par le maoïsme, par toutes ces choses-là. Et puis petit à petit, dans les années 70, une partie de cette mouvance 68-art est passée à l'antitotalitarisme généralisé. C'est-à-dire, on s'est mis à considérer que oui, le communisme était aussi une forme de totalitarisme. Et à ce moment-là, on s'est intéressé à tous les mouvements antitotalitaires, que ça soit bien entendu Solidarność en Pologne, les combattants, les Moudjahidines en Afghanistan, etc. Il y avait une espèce d'œcuménisme de l'antitotalitarisme. Et alors moi, comme je connaissais l'Afghanistan avant, et que c'est un pays que j'aimais beaucoup et dont je parlais à peu près correctement la langue, je me suis dit, bon, bah, c'est là que je vais aller.
Ah, il ne suffit pas de parler correctement la langue quand vous êtes exfiltré avec votre compagne d'alors d'une région très dangereuse à une région moins dangereuse. Alors elle est sous une burqa, vous êtes habillé en afghan, mais il ne s'agit pas seulement de parler la langue.
Non, là, on arrive à un moment fusionnel, hein, quasiment. C'est-à-dire, pour repasser la frontière avec le Pakistan et traverser les dernières zones tenues par les Soviétiques, on m'a fait passer pour un réfugié afghan. Et ma compagne s'est mise en burqa, et moi j'avais ma carte d'identité de réfugié, et il fallait pas se faire prendre, c'est-à-dire il fallait pas se faire repérer comme étranger. Donc ça supposait que le langage corporel soit complètement indigène. La langue, c'était pas très grave, parce qu'il y a plein d'accents en Afghanistan, donc on ne repérait pas la langue. On nous repérait à la manière de marcher, à la manière de s'asseoir ou de ne pas s'asseoir, à la manière d'être accroupi, à la manière de manger avec les mains, à la manière de regarder, d'avoir le regard dans le vague en attendant, de se fondre dans le paysage. Et là, on est obligé d'apprendre, un, parce que c'est vital, bien entendu, ça serait très dangereux de se faire prendre, hein. J'ai des amis qui sont morts, d'autres qui ont passé un an en prison. Donc, quand on se transforme en l'autre, on voit les choses, bien entendu, d'un point de vue complètement différent. Et cette expérience de la burqa, bon, moi, j'étais là, du coup, le mari d'une femme en burqa, on voit à quel point ça modifie complètement tous les rapports sociaux.
Christophe de Pontfilly a beaucoup fréquenté, lui aussi, l'Afghanistan. Voici, au Panjshir, en 1984, l'interview d'un Moudjahidine.
Cette fois, nos maisons ont été détruites par les Soviétiques. Cette fois, nous les avons reconstruites. Voilà notre quotidien. Nous ne voulons rien d'autre que le départ des Soviétiques de notre pays. Chaque jour, ils viennent nous bombarder. Et nous, nous n'avons plus rien.
Nous n'avons plus rien. Ils nous ont jeté des bombes. Mais on fait la guerre pour des melons, expliquez-vous aussi.
Mais il y a un côté picaresque aussi en Afghanistan. On côtoie la tragédie, mais on côtoie aussi la comédie. Et donc, une fois dans le nord de l'Afghanistan, j'étais avec des moudjahidines locaux qui étaient des gens très pauvres. Et pour aller attaquer les Russes, on était tout près de la frontière russe, on traversait des champs de melons. Et alors, c'était magnifique, c'était fin août, tout le monde avait faim, tout le monde avait soif. Et les champs étaient tenus par les paysans locaux, qui bien entendu les vendaient et ne voulaient pas les donner. Et donc, un moudjahidine est allé voler un melon, emprunter un melon, non, puisqu'on le rendrait pas. La vieille dame qui gardait le champ l'a battu à coups de canne, et le moudjahidine tout penaud a quand même réussi à négocier le melon. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais pourquoi les Soviétiques ont envahi notre pays? Parce qu'à part les melons, nous, on n'a rien. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour les melons qu'ils sont venus.
Vous avez vu les premiers frémissements des étudiants en théologie, enfin des étudiants des madrassas militarisés auprès du Mollah Omar, et vous avez vu aussi les premiers groupes de djihadistes. Et là, j'aimerais que vous nous parliez d'Abdullah. Vous voyez une colonne djihadiste, et l'un d'entre eux repère que vous êtes français, et il vous dit, en français ?
Il me dit en français, qu'est-ce que tu fais là, espèce d'infidèle, retourne dans ton pays, ici c'est le djihad pour les musulmans. Bon, ce qui faisait pas plaisir à nos amis afghans, bien sûr. Bon, voilà, et on s'en va chacun de son côté, bien sûr. Moi, j'évite ensuite de... De toute façon, les afghans voulaient pas qu'on se mélange avec ceux qu'ils appelaient les arabes. Et exactement 20 ans plus tard, je me retrouve à Londres, à une conférence sur la déradicalisation. Et à côté de moi, il y avait un grand barbu, qui s'appelait Abdullah. Et on se regarde, et il me dit, mais toi, je te connais, je t'ai vu quelque part. Et moi, je lui dis, mais je crois aussi. Il me dit, écoute, il y a 20 ans... J'ai fait une grosse bêtise, j'ai injurié un pauvre français dans un col en Afghanistan. Et je lui dis, bah, écoute, il y a 20 ans, j'étais un pauvre français dans un col et je me suis fait injurier par un grand barbu algérien. On a rigolé. Et Abdullah Anas faisait partie du groupe, du noyau dur qui a lancé le mouvement du djihad pour les étrangers en Afghanistan. Il était le gendre d'Abdullah Azam, qui était le chef de ce groupe-là. Et il s'est trouvé en concurrence avec Ben Laden pour la succession d'Abdullah Azam. Abdullah Azam a été assassiné. Ben Laden a pris le pouvoir avec l'aide des Pakistanais à l'intérieur de l'organisation. Abdullah Azam a été, disons, mis de côté. Mais il est resté en Afghanistan. Il a participé à la prise de Kaboul en 1992. Et là, le lendemain de la victoire, quand il s'est aperçu que d'un seul coup, les Moudjahidines victorieux ont commencé à se tirer dessus, à tirer sur la population, et que c'était une guerre civile à la limite plus atroce que la guerre contre les Soviétiques, il s'est dit, bon, quelque chose s'est mal passé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris.
On peut débobiner, en fait.
Oui. Il est revenu en Europe, il a été un fondateur du FIS en Algérie, mais il a fait partie du groupe du FIS qui n'a pas voulu se lancer dans le djihad. Et maintenant, il travaille en Angleterre sur la déradicalisation des jeunes djihadistes. Il leur dit, écoutez, moi, je suis un vrai djihadiste, et je peux vous dire que ce que fait Daesh, ISIS, etc., c'est du meurtre, c'est de la violence, c'est pas le djihad.
Vous disiez, il n'y a plus de monde soviétique. Après l'époque de l'Afghanistan, le retrait pour les soviétiques, la fin de l'URSS, le dragon recrache parfois des morceaux d'histoire, naissent en Asie centrale, où vous allez maintenant passer une dizaine d'années, des États nouveaux qui sont bien contents de remettre au goût du jour des formes anciennes de la région. Ici, Tadjikistan, Ouzbékistan, c'est le chachmakom, une vieille forme musicale avec un répertoire limité et très codé, issu de la cour du sultanat de Boukhara.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec En quête de l'Orient perdu, c'est le titre de son dernier livre aux éditions du Seuil avec Jean-Louis Schlegel. Olivier Roy, qui maintenant est en Asie centrale. On a peut-être l'impression, parmi nos auditeurs, que vous êtes un aventurier. Non, vous êtes au CNRS depuis 85, vous êtes en poste officiellement au SCE un moment, à Douchanbé, capitale du Tadjikistan. C'est à Douchanbé, elle nous pardonnera si on la cite, que vous retrouvez Martine, Martha, que vous avez connue, mais à Dreux, évidemment.
Plus exactement, je l'ai emmené à Douchanbé en voyage de noces, et pour reprendre mon boulot de représentant de l'OSCE au Tadjikistan. Donc comme toujours, je mélange travail et vie privée, ça j'arrive pas à faire une claire distinction.
Et Martha, vous l'aviez connue dans un milieu d'ouvriers agricoles à Dreux.
Son père était un travailleur immigré turc, ouvrier agricole, et c'était mes voisins quand j'habitais dans un petit village à côté de Dreux. Son père était venu tout seul, bien sûr, sans la famille, et on avait sympathisé. Et au bout de quelques années, il commence à faire venir la famille par petits bouts, sa femme d'abord, qui a eu deux jumeaux sur place, donc je suis devenu parrain d'un des jumeaux, et ensuite, il a fait venir toute la famille qui était restée en Turquie. Et parmi les grands-enfants, il y avait ma future femme, que j'épouserai, bon, 15 ans plus tard.
Alors, je ne veux pas entrer dans votre vie privée plus avant, mais vous expliquez que le fait d'être parrain dans cette famille, ça ne facilitait pas aux yeux des autorités chrétiennes syriaques de Damas, dont elle dépendait religieusement, le mariage.
Oui, alors c'est fréquent dans l'orthodoxie, dans toute l'orthodoxie chrétienne, c'est-à-dire que le lien de parrainage est un lien très très fort, et donc il y a un interdit sur le mariage entre un parrain et quelqu'un de la famille de son filleul, ce qui était mon cas. Et donc, quand j'ai demandé Martha en mariage, son père a dit, bah, il faut une dispense de l'évêque. J'ai appelé l'évêque donc syriaque en France, Monseigneur Tchitchek, qui a refusé avec beaucoup de véhémence, en considérant que c'était un interdit majeur. Et donc, il ne me restait plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire m'adresser au patriarche syriaque orthodoxe de Damas. Mais là, c'était une entreprise autrement plus complexe.
Enfin, vous avez fini par recevoir, sceller comme il convient, l'autorisation. Je vous ai fait citer tous ces noms parce que on va les retrouver. Le nom du patriarche syriaque de Damas, Zakas Ier Iwas, je ne me trompe pas. Le père Yacoub Aïdin, qui est un de vos amis, et l'évêque qui vous avait refusé l'autorisation, Monseigneur Tchitchek, on va les retrouver tous ensemble en 2004 à Montfermeil, Seine-Saint-Denis, pour la consécration d'une église syriaque. Reportage à la télévision de Jean-Pierre Antiri.
Samedi 3 juillet 2004, Montfermeil, banlieue est de Paris. Chantant « Bienvenue au vrai pasteur » et laissant éclater sa joie, la communauté syriaque d'Antioche accueille son patriarche, sa sainteté Ignace Zaka Ier, venu exprès de Damas pour consacrer la nouvelle église Sainte-Marie, Mère de Dieu.
C'est une grande joie pour nous d'être venus à la rencontre de notre communauté de France. Elle est certes faible en nombre, mais héroïque dans sa foi. Sinon, elle n'aurait pas pu bâtir à partir de rien cette belle et grande église. Nous avons tenu à procéder à la consécration de cette église en compagnie du prêtre qui a tant œuvré pour sa construction, notre fils spirituel, Yacoub Aïdin.
La liturgie, c'est en quelle langue, là, Olivier Roy ?
C'est en syriaque, c'est-à-dire...
Syriaque liturgique.
Syriaque liturgique, qui est donc le même depuis la grande époque du début du premier millénaire, quoi, de l'époque du Christ.
Mais les syriaques de la diaspora, ils sont hélas de plus en plus nombreux, contraints et forcés à être en diaspora. Quelle langue parle-t-il ?
Alors, ceux qui viennent du Toulabdin, c'est-à-dire la région syriaque de Turquie, parlent syriaque moderne, qui évidemment est assez distinct, très distinct du syriaque d'église. Mais c'est une langue qui reste vivante dans l'immigration pour une raison très simple. C'est-à-dire, comme ils ont immigré dans des pays très différents, il y en a en Australie, en France, en Allemagne, en Suisse, etc. Du coup, la seconde génération, pour se retrouver, se parle en syriaque. Et alors, c'est même très amusant parce qu'ils ont inventé un alphabet pour tweeter, par exemple, ou pour s'envoyer des SMS, ils ont inventé une transcription, les jeunes, en alphabet latin, pour se communiquer par SMS. Et ils continuent à parler le syriaque. Donc c'est une langue qui n'est pas une langue morte.
Dans votre livre sur la sainte ignorance, toute une réflexion sur la déconnexion du culturel et du religieux. Les syriaques ont leur part, mais vous observez en effet ce qui se passe chez les plus jeunes, qui sont souvent tentés par des courants religieux, comment dire, mondialisés,
souvent plus fondamentalistes. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les religions, y compris le christianisme. Il y a une crise de la culture religieuse traditionnelle. Il n'y a plus de savoir profane de la religion. Hein, les gens ne savent plus ce que c'est que la religion quand ils n'ont pas eu une éducation religieuse spécifique. Et les croyances se vivent de plus en plus comme une minorité à l'intérieur d'une culture dominante qui est séculière. Même dans les pays où les croyants se disent en majorité, comme l'Amérique par exemple, ou j'ajouterais même l'Égypte. C'est tout un discours maintenant des communautés de foi de dire « nous sommes une minorité » et nous sommes brimés par la culture dominante.
D'où une tentation du rejet de la culture dominante. Vous parliez des États-Unis, vous prenez un exemple dans une université évangélique. Coucou, voilà de nouveau les évangéliques, beaucoup plus nombreux qu'au temps du camp de toile de vacances de votre adolescence. Il y a un rituel dans cette université évangélique, on met sur des bouts de papier tous les mots, M-A-U-X, de la culture moderne qu'on va rejeter dans une poubelle, en accompagnant le rejet de prières.
Oui, c'est un thème d'ailleurs très, très protestant, hein, celui de la mort du vieil homme en soi et du born again, de renaître à Dieu. Et pour renaître à Dieu, plus spécifiquement à Jésus dans le cas là, eh bien il faut faire une rupture. Et une rupture non seulement avec la société dominante, mais dans le fond, pour moi, c'est une rupture avec la culture. C'est-à-dire qu'on considère que soit la culture et la religion, c'est la même chose, dans ce cas-là, c'est pas la peine de parler de culture, soit que la culture est extérieure aux religieux et que au mieux, ça ne sert à rien, au pire, que c'est une culture païenne. Et de plus en plus, on a maintenant, dans les communautés de foi, cette idée que la culture dominante est devenue païenne. Donc, on a un divorce croissant entre le religieux qui veut, dans le fond, se redéfinir à partir de zéro et non plus d'une transmission de génération, et une culture dominante qui est sécularisée partout, même aux États-Unis bien entendu, et qui ne comprend plus le religieux et qui a même à la phobie du religieux. Donc on a une double radicalisation, si je peux dire.
Alors quand on dit par automatisme, habitude, paresse de penser, retour du religieux, c'est complètement faux.
Non, le religieux traditionnel ne fait pas du tout retour. L'évangélisme n'est pas une ancienne religion. Le salafisme n'est pas une forme traditionnelle de l'islam. De même, le loubavisme chez les juifs n'est pas du tout un retour du Moyen-Âge. Ce sont des formes modernes du religieux. Le fondamentalisme est une conséquence de la modernisation et de la sécularisation. Et c'est pas du tout un retour à des sociétés traditionnelles. C'est là qu'on fait une grave erreur d'analyse.
Vous parlez de la phobie du religieux. On réfléchit beaucoup à la question. Quand je dis on réfléchit, c'est comme quand un enfant tourne dans un manège qui tourne en rond, et voilà que de nouveau se pose la question de l'inscription des signes religieux dans l'espace public. Voici que Nicolas Sarkozy dit il ne faut pas de voile à l'université. Comment considérez-vous cette question? Vous êtes tellement fatigué de vous l'entendre poser que vous êtes allé enseigner à Florence.
Disons que je considère, oui, que c'est l'expression d'une phobie contre le religieux, et du coup, ça va à l'encontre de la liberté religieuse. La loi de 1905 en France est une loi qui garantit la neutralité de l'État, mais qui garantit la liberté religieuse. La loi de 1905 est une loi sur les cultes. Et qu'est-ce que c'est qu'un culte? C'est la pratique religieuse dans l'espace public. La loi de 1905 ne dit rien sur le privé, bien entendu. La loi n'a pas légiféré le privé. Donc la loi reconnaît parfaitement que le religieux a le droit d'être dans l'espace public. Elle reconnaît le droit aux sonneries de cloche, aux processions, etc., etc. Elle confie à l'État même le soin d'assurer un espace religieux dans les endroits où les gens sont enfermés. Bon, l'armée, les hôpitaux, les internats, les prisons, évidemment. Or, aujourd'hui, on est en train de quitter et la lettre et l'esprit de la loi de 1905 pour venir à la laïcité comme idéologie, c'est-à-dire l'idée que le religieux, c'est dans le privé. Mais c'est pas vrai.
Je veux dire, un mot pour finir, de vos amis du cercle laïque de Dreux. Alors, vous racontez que ils sont du centre-ville, ils sont restés entre Français, d'origine française, mais qu'il leur arrive maintenant d'aller rencontrer les jeunes animateurs musulmans sur le plateau, au-dessus de la ville.
Ben, il y a toute une tradition associative liée, disons, à la gauche, à la laïcité, etc., qui a disparu en France, hein, bien sûr, avec ce que je pourrais appeler l'étatisation un petit peu du Parti Socialiste durant les 20 dernières années. Donc il y a un problème de renouvellement de la militance. Il n'y a plus de société civile de gauche maintenant en France. Hein. Par contre, on commence à voir des nouvelles formes de militance, de sociabilité, etc., mais qui viennent plutôt des jeunes des quartiers. Parce que c'est là, effectivement, qu'il y a un besoin de société. Et donc on a la vieille tradition laïque qui se trouve confrontée à une nouvelle militance, mais de jeunes, mais qui eux n'ont pas l'islam dans leur poche. Bon, alors soit c'est conflictuel, soit on fait des compromis. Et alors à Dreux, moi je trouve que ça se passe plutôt bien de ce côté-là.
En quête de l'Orient perdu, vous entretiens avec Jean-Louis Schlegel. Merci à vous, Olivier Roy. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Ilinka Negulesco. La réalisation, c'était Jacques Sigal, et la technique, Julien Dumont.